Bon, on l'attend depuis très longtemps, mais en principe, là, c'est aujourd'hui qu'il sera rendu public le rapport du BAP sur le projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean de GNL Québec.
Oui, c'est ça. Ça va être aujourd'hui, Paul. Je te le confirme, okay. Ça va être aujourd'hui, ça va être ce matin. Alors, je vous le dis là, d'emblée, c'est assez costaud comme dossier. J'ai essayé de bien vous le vulgariser. C'est un dossier qui est très délicat parce que GNL, puis je vais vous expliquer en quoi ça consiste dans un instant, mais GNL, Paul, c'est à la fois un dossier économique puis un dossier environnemental. Et quand les deux se touchent, économie et environnement, ça fait souvent des flamèches. Et c'est ce qui se passe dans ce dossier-ci, et c'est particulièrement sensible pour la CAQ, pour le gouvernement Legault. Je vais vous en parler dans un instant. Mais je vous le rappelle, GNL, c'est quoi? Alors, GNL, G pour gaz, N pour naturel, L liquide. Gaz naturel liquide. Un projet, Paul, de 14 milliards d'investissements. Ce serait, s'il se réalisait, là, le plus important investissement privé de l'histoire du Québec. Ça consiste en deux choses. Un gazoduc qui part de l'Abitibi par le nord du Québec puis qui s'en va jusqu'à Saguenay. Donc, 750 kilomètres de gazoduc, ça, c'est 5 milliards. Et à l'arrivée à Saguenay, une usine de liquéfaction de 9 milliards pour transformer le gaz en liquide. Et là, de là, on embarque le gaz liquéfié sur des bateaux et on s'en va le vendre en Asie. En Chine en particulier. Bon, puis là, il passe par la rivière Saguenay, le bateau. Fait que là, tu as des belugas hein, à la sortie du Saguenay. Là, déjà, tu vois là, un début d'enjeu environnemental. Évidemment, les promoteurs vont dire, le gaz qu'on va vendre, il va aller remplacer le charbon. Fait que c'est bon pour la planète. T'sais, ça fait partie des arguments des promoteurs. Alors aujourd'hui, Benoît Charrette va rendre public le rapport du BAP, donc l'évaluation environnementale, enfin une partie de l'évaluation environnementale du projet. Très bien. Et politiquement, c'est pas simple pour la CAQ. Pourquoi? Parce que la CAQ, Paul, elle s'est présentée comme le parti de l'économie aux dernières élections. Tu te rappelles, Legault a dit, c'est plus les libéraux, le parti de l'économie, c'est nous autres. Fait que tu comprends bien que pour les caquistes, tu peux pas aller dire que t'es contre un investissement de 14 milliards si t'es le parti de l'économie. Mais en même temps, depuis qu'ils sont là, ils essaient de se donner un vernis vert, les caquistes. Ils essaient de prendre un positionnement environnemental. Fait comment concilier l'économie puis l'environnement dans ce dossier-là? C'est ça qui est compliqué. Alors là, Benoît Charrette va rendre ça public ce matin. Moi, je soupçonne, là, j'ai pas été capable d'avoir la confirmation, mais je pense qu'après la période des questions, là, Benoît Charrette va faire un point de presse. Fait qu'ils vont mettre en ligne le rapport probablement pendant la période des questions ou un peu avant. Puis Charrette va sortir devant les médias vers, mettons, 11h15.
OK, mais la CAQ souhaite-t-elle que le projet se réalise ou pas actuellement, d'après ce que tu entends?
D'après ce que j'entends, ils sont très mitigés.
Parce que là, les libéraux ont changé d'idée. La chef, Mme Anglade, est contre le projet.
Alors qu'il était pour, là.
Certainement. Puis tu revois les propos de Serge Chimard, ancien du Parti libéral, qui se présente à la mairie de Saguenay, qui te ramasse Mme Anglade en disant que jamais plus il va avoir sa carte de membre du Parti libéral, lui-là. Là.
Ah, écoute, mon gars, ça a fait...
La chicane est...
Pas à peu près.
Bon.
Pas à peu près. Fait que...
Pour répondre... Sylvain Gaudreau, là...
Oui.
Faut lui donner ça depuis le début, lui, qui s'oppose. Là. On peut être pour, on peut être contre, là, mais le gars, là, c'est le député du coin, puis il est contre le projet.
Ah, puis il est solide.
Non, mais...
Il est solide dans ses convictions. Politiquement, il prend un très grand risque, Sylvain Gaudreau.
Parce que le projet est populaire, on comprend dans la région. Là.
Exactement. Il y a pas mal plus de monde qui l'appuie que de gens qui sont contre. Mais, je veux dire, Gaudreau, il a été debout dans ses bottes depuis le début, puis... Il sait ce que je pense. J'ai dit à Sylvain, j'ai dit, tu prends un risque politique. S'il se représente, Paul, là, il pourrait se faire battre là-dessus. Je te dis pas qu'il va se faire battre.
Non, mais...
Parce qu'il y en a déjà qui l'ont donné battu, Gaudreau, puis il a fini par gagner. Mais il prend un risque politique. C'est sûr que ça va pas l'aider auprès d'un certain électorat. Alors, pour répondre à ta question, moi, ce que j'entends dans les officines caquistes, c'est qu'ils me disent, les promoteurs sont pas capables de se faire financer.
Ben, il paraît que, ben, pas il paraît, là, Buffett s'est retiré, là.
C'est ça. Buffett, il devait mettre de l'argent là-dedans, Warren Buffett.
Il a dit non.
Non, c'est ça. Puis il s'est retiré au terme ou pendant à peu près le blocus ferroviaire. Quand il a vu ce qui se passait avec les Wet'suwet'en, là, il y a quoi, un an de ça à peu près, il a dit, moi, je sors de ce projet-là. J'ai pas le goût de mettre des milliards. Puis après ça, les Autochtones vont barrer le gazoduc. Fait que je me retire de ça. Alors, les caquistes, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est, ils sont, ils doutent. Ils doutent par rapport à la viabilité de ce projet-là, parce que ce qu'on me dit, c'est que les promoteurs sont pas capables de faire la preuve qu'ils vont avoir l'argent. Le 14 milliards, c'est bien beau là, dans un plan d'affaires, mais faut que quelqu'un le mette sur la table, le 14. Puis ce que je comprends, c'est que tu as beaucoup de caquistes qui doutent que les promoteurs vont être capables d'aller chercher l'argent. Maintenant, surveillez bien la joute politique qui va se jouer autour du rapport aujourd'hui. Parce que moi, Paul, je te dis, j'ai essayé autant comme autant, pas été capable de savoir ce qu'il y avait dans ce rapport-là, mais j'ai des petites bribes qui m'amènent à penser que ce rapport-là va être assez mitigé face au projet. Je pense que le BAP, là, à tout le moins, ils vont poser un certain nombre de questions dans leur rapport aujourd'hui. T'sais, ils vont dire, j'ai l'impression qu'une des questions qu'ils vont poser, c'est combien de GES, Paul, vont être produits en Alberta, en Saskatchewan, au moment de l'extraction du gaz.
Oui, je sais, parce que là, le projet ne compte que ces gaz à effet de serre locaux. Là.
Ben c'est ça, mais tu peux pas faire ça, comprends?
Non, je sais, mais c'est un classique, ça.
Ben oui, évidemment, tu comptes juste les gaz à effet de serre qui sont produits sur ton territoire, puis tu oublies ceux qui sont produits dans l'Ouest. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir des questions qui vont être soulevées par le BAP dans son rapport là-dessus. Puis la ligne de Benoît Charrette aujourd'hui, là, j'ai l'impression que ça va être de dire c'est pas la fin du débat, là. Moi, je prends le rapport, je vais le lire, je vais probablement m'en servir pour poser des questions aux promoteurs, mais c'est pas la fin du débat. C'est pas aujourd'hui, en d'autres mots, que Benoît Charrette puis la CAQ vont dire s'ils appuient ou s'ils rejettent le projet. Ça va venir plus tard. Mais les oppositions, eux autres, aujourd'hui, vont dire, surtout si le rapport est négatif ou si le rapport soulève un certain nombre de réserves, c'est sûr que les trois partis d'opposition qui sont tous contre le projet maintenant vont dire à la CAQ, déchirez ça, ce projet-là, mettez ça à la poubelle. Mmh. Puis la CAQ va dire, peu, là. Parce que la CAQ, Paul, je te le répète, ils veulent surtout pas avoir l'air d'un parti qui est opposé aux grands projets. Legault, il en veut des grands projets.
Mais tant qu'à faire, il aimerait mieux qu'il marche pas. Il sera pas obligé de dire non.
Et voilà. Moi, je pense que c'est ça l'affaire.
C'est comme le baseball. Tu peux bien dire oui si c'est payant, puis après ça, dire, ben, ça ne l'est pas, fait qu'on le fait pas. Tu fermes pas la porte. C'est la stratégie.
Je pense que tu es exactement dans le bullseye. Faut pas que tu dises non. Mais t'espères...
Tu te montes ouvert, puis faites-moi la preuve que c'est rentable, puis que vous êtes capable de le faire.
Puis malheureusement, dans le cas de GNL, c'est-tu de valeur, ils n'ont pas été...
On aurait bien aimé ça, mais...
Ils n'ont pas été capables de trouver l'argent, tu comprends?
Alors, reviens donc sur le dossier de l'Internet haute vitesse.
Oui, je t'ai dit hier matin que j'allais revenir là-dessus. Je veux juste vous dire, là, ça a joué dur dans les coins, Paul, entre les différents fournisseurs. Parce que là, t'avais Vidéotron, Cogeco, Bell, TELUS... Puis eux autres, ils voulaient tous aller chercher le maximum de nouveaux abonnés. Parce que quand on parle d'Internet haute vitesse, d'aller brancher quelqu'un qui ne l'a pas, une fois que tu l'as branché, il devient ton client. Fait que là, les entreprises soumissionnaient, disaient pour tel coin des Laurentides, tel coin de la Montérégie, tel coin de l'Outaouais, moi je te le fais à tel prix. Puis là, c'est Stéphane Le Bouillonnec qui gérait ça. Parce que tu sais qu'il est devenu haut fonctionnaire, Stéphane Le Bouillonnec. Bon, il gérait ça au ministère du Conseil exécutif, puis il prenait les offres, si tu veux, des différents fournisseurs. Alors, c'est pas sorti beaucoup, beaucoup publiquement, mais je peux te dire, les chiffres officiels, c'est que c'est Vidéotron qui est allé chercher le plus de nouveaux abonnés, donc qui va brancher le plus de gens à Internet haute vitesse. Eux autres, ils vont en brancher 37 000, tout près, un peu plus de 37 000. C'est Cogeco, Paul, qui a fini deuxième, avec presque 36 000 nouveaux abonnés. Puis évidemment, pour chaque nouvel abonné, tu as une subvention. Là. C'était ça l'annonce d'il y a deux jours. Là. Le 820 millions qu'ont annoncé Legault et Trudeau, c'est une subvention pour...
Brancher le monde.
Ben, pour brancher le monde. Fait que Cogeco a fini deuxième. Moi, j'ai fait en entrevue Frédéric Perron là, de Cogeco Connexion. Cogeco va dérouler 7 000 kilomètres de fibres. Les 36 000 nouveaux abonnés qui vont brancher, là, c'est 7 000 kilomètres de fibre. Ça fait de la fibre, en mot, t'as dit. Bell, on finit troisième. Enfin, tout ça pour te dire que dans les prochaines semaines, mon gars, il y a de la politique qui va se faire.
Comme dans le temps de l'Union nationale. Il y avait l'électrification rurale avec Maurice, puis là, il y a l'Internet haute vitesse. C'est le même principe des poteaux.
Il y a un artisan, un important architecte du projet qui m'a dit exactement ça.
Ben, tu vois.
Qui m'a dit c'est l'équivalent de l'électrification rurale dans le temps. Paul, tu connais ta culture politique.
T'as le poteau, t'as le fil, puis t'as la face du candidat.
Et donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, t'as les fournisseurs qui vont dire, moi, on s'en vient vous brancher. Puis là, t'as les députés qui vont sortir des communiqués pour dire, c'est grâce à nous qui, hein. Et puis là, t'as les ministres qui vont passer par en arrière.
Nous vous avons branché. Je pense pas que c'est pas beau, ça.
Alors, bon travail de Gilles Bélanger, le député d'Harford, il a travaillé fort. Faut le souligner. Il est pas ministre. Mais il a quasiment joué le rôle des ministres dans ce dossier-là. Je tiens à le souligner parce que c'est pas, c'est des fois, c'est être député quand t'es au gouvernement, c'est un peu ingrat.
Salut, 7h13.